Bonjour à tous. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir pour cette première conférence dans cette salle, donc sur la surveillance et l'évaluation environnementale des sites classés. Alors, on est dans un contexte aujourd'hui qui est vraiment très très porteur, de grandes transitions. Hein, on va vers donc une transition de l'Europe en fait vers une économie zéro pollution. Hein, ça fait partie de tous les nouveaux enjeux en fait proposés par le Pacte vert. Dans ce cadre, il y a de nouvelles règles. Il y a des règles qui sont revues. Il y a des règles qui sont renforcées. Et notamment, justement, dans tout ce qui concerne le domaine de l'air, les directives air, la fameuse directive IED, je crois, on en parlera un petit peu tout à l'heure, sur les émissions industrielles. Donc, le pacte vert qui a été lancé en 2019 a plusieurs objectifs majeurs. Tout le monde sait, c'est la neutralité climatique, mais aussi, donc, forcément, enfin, de créer un environnement complètement exempt de substances chimiques toxiques. Et c'est là qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et c'est là que la surveillance environnementale a un rôle vraiment fondamental. Donc, ça met vraiment l'importance sur la surveillance et l'évaluation, surtout autour des sites classés. Et donc, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, pour en parler aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur de vous présenter Jessica Quéron, donc de l'INERIS, Virginie Minier-Fouyenne, pareil, de la même unité de caractérisation, je crois que c'est indiqué, voilà, unité de caractérisation du milieu R, et Monsieur Pif Sud de la société Elona, fondateur et président de la société Elona, qui nous parlera plutôt d'une solution, enfin de tout ce qui concerne les micro-capteurs. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander, donc, Jessica Quéron, de présenter. Chacun va présenter un petit peu sa fonction et sa structure. Et après, on reviendra au sujet en question.
OK. Bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Oui.
OK.
Alors, l'INERIS, je vous présente rapidement ce qu'est l'INERIS. Alors, l'INERIS, on est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, on est sous la tutelle du ministère en charge de l'écologie. Donc, en gros, l'INERIS, c'est à peu près 500 personnes. On est implanté à Verneuil-en-Halatte. Du coup, en fait, on travaille sur... vraiment, on est fondé sur un trépied. C'est-à-dire que notre appui au pouvoir public, donc au ministère de l'écologie. Mais également, on réalise des projets de recherche de haut niveau. Et enfin, bah, du coup, le troisième trépied, c'est les activités commerciales. Donc, pour des clients privés, on réalise des prestations. Donc, du coup, ce modèle repose voilà, sur une déontologie et un dialogue régulier avec la société civile également. Je vais assez rapide sur la présentation de l'INERIS, mais l'INERIS, c'est aussi beaucoup de plateformes d'essai, mais en grandeur de nature. Donc, vous pouvez voir quelques exemples en photo, parce qu'on a à la fois des laboratoires, mais on a à la fois aussi des moyens d'essai uniques, parfois même uniques en France, mais même en Europe, voire plus. On a un mésocosme, donc une rivière artificielle, des plateformes souterraines, une plateforme nano-sécurisée également, et une plateforme sécurité des batteries, incendie et un banc d'essai à l'émission. Banc d'essai à l'émission sur lequel, en fait, on accrédite les laboratoires qui réalisent des mesures à l'émission en sortie de cheminée. Du coup, plus spécifiquement, notre équipe, Virginie et moi, donc nous, on est dans une unité en fait, qui caractérise l'air au plus proche de la source, donc particulièrement autour de sites industriels, pour évaluer son impact sur l'environnement. Pour cela, on construit des stratégies de surveillance dans l'air qui permettent d'évaluer ces concentrations dans l'air, mais aussi les flux d'émissions, aussi émissions diffuses, donc non canalisées, tout ce qu'on ne maîtrise pas, en fait, qui s'échappent du site et du coup qui peuvent accessoirement impacter la population générale.
Tout à fait. Donc, Monsieur Jean-Christophe Mifsud, voilà, président de la société Elona, donc une société que vous définissez comme un acteur de la data. Donc, vous êtes spécialisé dans les solutions connectées, donc destinées au suivi et à l'identification des nuisances. Donc, vous travaillez en fait donc les nuisances gaz, odeur, bruit, particules. Et vous avez un objectif, si j'ai bien compris, c'est de devenir le leader des données analytiques consommateurs B2B et B2B2C grâce à l'association de microcapteurs, d'algorithmes propriétaires et de l'intelligence artificielle. Dites-nous en plus.
Bonjour à tous et merci Hélène, mais c'est effectivement, je crois que vous avez tout dit. Donc nous sommes une société effectivement basée à Toulouse qui rassemble près de 500 anéums d'expertise dans le domaine du suivi des émissions environnementales. Ces émissions environnementales, elles demandent effectivement à la source, à la périphérie ou au voisinage une approche qui est la plus holistique possible. Et aujourd'hui, nous pensons essayer chez Elona de fournir, et on va essayer de l'élaborer au cours de cette réunion, trois grandes résolutions. Les premières résolutions qui sont importantes par rapport à l'existant, c'est ce qu'on appelle la résolution géographique. Cette résolution spatiale, en fait, elle est vraiment nécessaire. Elle est nécessaire pour être effectivement proche des différentes sources, proche de la périphérie, proche du voisinage. Et c'est à ce à quoi nous nous attachons par l'intermédiaire de la dispersion d'objets connectés. La deuxième résolution qui est importante auquel on s'attache avec notre équipe, c'est la résolution temporelle. C'est-à-dire une capacité de réaction, de remédiation, d'action sur le processus en temps réel. Et pour cela, il faut avoir des temps d'analyse qui soient de l'ordre de la minute, de la dizaine de secondes, voire la seconde. Et le troisième élément qui me semble essentiel, c'est ce qu'on appelle la résolution qualitative, c'est-à-dire la capacité de contextualiser l'événement et de savoir ce qui est en train de se passer dans le processus. Ce n'est pas du PM1, du PM2.5, du PM10, non, c'est de la silice alvéolaire. C'est du ciment, c'est du plâtre, c'est du pollen. Ce n'est pas du NO2 ou du H2S. C'est le clarificateur, c'est le biofiltre, c'est la benne à boue qui est en train de sentir ou de générer. C'est de pouvoir remonter à la source. Et cette résolution qualitative, pour moi, pour le manager de process, est essentielle. Et c'est pour ça, pour revenir à ce que disait Hélène, notre équipe s'attache effectivement à disperser des capteurs, mais surtout à derrière faire de la reconnaissance d'empreinte, de la reconnaissance de source. Et donc, on va faire intervenir, peut-être que j'aurai l'occasion de le montrer, mais beaucoup d'intelligence artificielle, la reconnaissance de signatures, qui va combiner ces éléments pour pouvoir remonter à l'identification et cela en automatique déclencher de la remédiation. Voilà un peu comment on est complémentaire avec tous les travaux que font les recherches académiques comme l'académie, comme l'INERIS, comme le CSTB, comme les ATMO. Donc, on est pas du tout en concurrence, mais plutôt tout à fait en complémentarité. C'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc, je me tourne vers vous, Virginie Minier. Donc, Fouillienne, pardon. Vous êtes ingénieure dans l'unité de caractérisation du milieu air en proximité de source. Je n'avais pas dit tout à l'heure, mais Jessica Quéron, vous êtes la responsable de l'unité. Voilà, donc vous allez nous expliquer, on va voir ensemble qu'est-ce que la surveillance environnementale et vraiment quel est son objectif majeur, parce que manifestement, tout le monde n'est pas forcément encore très, très au courant. Quelle est la méthode pour mettre en place une stratégie de surveillance environnementale? Vous allez aussi nous rappeler, je pense, un peu le cadre réglementaire avec le fameux arrêté du 2 février 1998 et puis les arrêtés préfectoraux qui ont suivi, la circulaire du 9 août 2013. Et puis, vous êtes aussi, en tant qu'acteur de recherche, comme le dit M. Mifsud, vous êtes à l'origine de guides spécifiques, de méthodos, etc. Donc, vous allez nous expliquer tout ça mieux que moi.
Oui, donc, merci beaucoup. Du coup, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui la surveillance environnementale. Alors, ça va être un condensé, en un quart d'heure. Voilà, ça va être les grandes lignes pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière une surveillance environnementale. Et juste avant, c'est je vous dire que là, je vais parler uniquement du compartiment atmosphérique. Tout ce qui est terrestre, c'est une autre unité qui s'en occupe. Donc là, on se focalise sur le compartiment atmosphérique. Juste par rapport aux particularités du compartiment atmosphérique, contrairement au compartiment terrestre, au compartiment aqueux, c'est que ça ne garde pas l'historique. C'est un compartiment majeur de transfert, dans lesquels il y a des grosses vitesses de déplacement par les conditions météorologiques. Et donc la pollution ne reste pas. Contrairement au sol, où quand on pollue un sol, ça peut se lixivier dans les nappes phréatiques, mais ça reste à un endroit, c'est bien cerclé à l'endroit où ça a été émis, ça ne part pas. Le compartiment atmosphérique, ça émet et ça part. Au gré du vent, au gré des réactions physico-chimiques qui peuvent se passer aussi dans le compartiment atmosphérique. Donc, il faut avoir en tête qu'une métrologie de l'air, c'est une photographie à l'instant présent. Dès lors qu'on coupe la source de l'industriel, on ne voit plus rien. Donc, l'objectif d'une surveillance environnementale, c'est déjà de tenir compte de ça et d'avoir conscience que quand on fait une surveillance, il faut que l'installation soit en fonctionnement. Si elle est à moitié en fonctionnement, à moitié à l'arrêt, on n'aura pas une représentativité de ce qu'elle émet. Pourquoi on fait une surveillance? Quel est l'objectif d'une surveillance? C'est d'abord de disposer de mesures dans l'air et dans les dépôts atmosphériques, donc des concentrations qu'on va retrouver dans le compartiment atmosphérique et dans les dépôts, donc ce qui retombe au sol. Pourquoi? Ben pour prouver que les compartiments, enfin l'usage qu'on fait de ce compartiment, si on a des potagers, si on a des vaches qui ont des pâtures, c'est compatible avec les rejets qui sont émis par l'industriel. C'est aussi, un autre objectif, c'est assurer une veille. C'est-à-dire qu'un industriel qui fait une surveillance régulière tous les ans, il va voir au fil du temps comment évoluent ces rejets dans l'environnement, comment évoluent les concentrations dans l'environnement. Ah. Donc oui, je vous disais les différents objectifs. Donc prouver la compatibilité entre les milieux et les usages. Assurer une veille, c'est-à-dire que si un industriel fait une surveillance régulière, il peut voir au cours du temps les niveaux de concentration, comment ils évoluent. Et donc pour lui, s'il voit qu'il y a une dérive, il peut mettre en place des mesures correctives et enfin, en tout cas comprendre pourquoi il y a une dérive des concentrations dans l'environnement. Ça peut aussi servir pour évaluer a posteriori un dysfonctionnement si l'industriel a une surveillance qui est mise en route régulière de manière... annuel ou en tout cas semestriel, s'il a un incident sur son site, il verra de suite, il pourra faire des comparatifs et il verra de suite l'impact que l'incident, le dysfonctionnement a eu sur l'environnement. Et enfin, et là j'attire votre attention, vous peut-être industriel qui êtes confronté à ça, c'est que c'est un très très bon outil de communication avec les riverains et les collectivités. Dès lors qu'il y a des soucis de voisinage, si l'industriel nous dit qu'il fait une surveillance de l'environnement et des mesures de concentration dans l'environnement, de suite, la communication est plus saine et plus simple et le dialogue est beaucoup plus facile et l'industriel est plus ouvert et les riverains sont aussi plus ouverts à entendre ce qu'il a à lui dire. Donc, c'est vraiment un très, très bon outil. En termes de chronologie, une surveillance se fait soit si elle est... toute récente et qu'elle va être, mise en fonctionnement, on le fait avant sa mise en fonctionnement pour faire un état zéro, un état initial, pour voir un peu le bruit de fond avant que l'installation se mette en fonctionnement. Et une fois que l'installation fonctionne, est en production, en fonctionnement normal sur une année représentative, on fait une nouvelle surveillance et on peut comparer par rapport au bruit de fond s'il y a une incidence sur l'environnement, sur les polluants qui peuvent être émis par l'industriel. En tout cas de cause, cette surveillance, elle est vraiment au cœur d'une démarche de gestion des risques chroniques, donc sur le long terme. C'est pas de l'accidentel, c'est vraiment de la gestion chronique, c'est-à-dire à l'échelle du temps d'une année, de deux ans, sur la durée. Au niveau réglementaire, une surveillance environnementale peut être imposée par l'arrêté du 2298 selon la rubrique à laquelle appartient l'industriel. Il peut y avoir aussi des arrêtés sectoriels, notamment les incinérateurs, ils ont leur propre arrêté qui les réglemente et dans laquelle il est exigé de faire une surveillance environnementale. Les inspecteurs peuvent aussi exiger une surveillance environnementale par arrêté préfectoral complémentaire. Suite à une évaluation des risques sanitaires, il peut être montré un risque pour certains polluants et donc l'inspecteur peut exiger une surveillance environnementale amenée par l'industriel. Donc là, le schéma, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous dire, selon les cas, on fait une campagne ponctuelle ou une campagne plus régulière. Ça va dépendre de l'objectif qu'il y a derrière. Si c'est pour faire une IEM, ce qu'on appelle une interprétation de l'état des milieux, on va faire une campagne ponctuelle et ces concentrations vont être injectées dans cette interprétation de l'état des milieux. Donc, c'est un peu plus complexe, mais c'est juste pour vous dire, selon l'objectif, on en fait juste une fois ou on peut la faire tous les ans, tous les six mois. Au niveau donc la stratégie, la méthodologie, on a un guide, le guide de l'INERIS, j'ai trouvé mon sac, qui est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de l'INERIS. Ce guide vous donne la méthode pour réaliser une surveillance environnementale. Ça vous donne toutes les clés pour réussir votre surveillance et qu'elle réponde à l'objectif que vous êtes fixé au départ. Donc c'est donc pour le compartiment atmosphérique et les dépôts atmosphériques. Elle est destinée donc au DREAL, au bureau d'études et aux industriels. Il faut que tout le monde prenne connaissance de cette méthodologie pour pouvoir après pouvoir se faire un avis sur ce qui est rendu. Souvent, les industriels, ils s'appuient sur les bureaux d'études et ils font confiance aux bureaux d'études qui font leur travail très correctement. Mais après, le dialogue est peut-être compliqué avec l'ADREAL parce qu'en fait, il n'a pas pris connaissance correctement du travail fait par le bureau d'études et il n'est pas en mesure de pouvoir répondre aux questionnements de l'ADREAL. Donc, il faut vraiment que toutes les parties prenantes intègrent cette méthodologie. Oui, donc ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site de l'INERIS. Il est accessible, il est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer.
Et il a été revu récemment ?
Oui, la nouvelle version est sortie en décembre 2021. On l'a mis à jour. On a intégré dans ce guide des études de cas pour aider à nous montrer un peu comment l'appliquer sur des cas bien précis. On a mis à jour certaines parties de la méthode. Donc voilà. Juste, ça n'intègre pas tout ce qui est surveillance accidentelle. Donc, en situation accidentelle, c'est un autre guide qui est aussi disponible sur le site de l'INERIS. Mais voilà, les situations accidentelles sont à part.
Et qui a été revu très récemment.
Suite à l'accident.
En février 2023, il me semble.
Ouais. Après Lubrizol, c'est ça ?
Non. Oui, du coup, ça faisait partie de nos travaux suite à l'accident de Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen. Effectivement, on a eu pas mal d'actions au niveau de l'INERIS à remettre à jour certains guides et à optimiser les méthodologies, que ce soit de prélèvement, mais de modélisation et d'autres.
Au niveau de la méthode surveillance, si je fais de manière très schématique, qu'est-ce qu'il faut quand on fait une surveillance, il faut décider quel polluant. Une fois qu'on a décidé le polluant, on décide la métrologie qu'on met en œuvre, on décide les lieux, les points de prélèvement et enfin on décide les périodes où on va mesurer. Donc là, rapidement, les polluants, qu'est-ce qui fait qu'on décide de suivre ces polluants ? Bah, déjà, c'est réglementairement, donc les arrêtés sectoriels, les arrêtés du 2-2-98, les arrêtés préfectoraux peuvent imposer des polluants. Les polluants, on peut aussi prendre les traceurs de risque, donc ceux qui sortent, une fois qu'on a fait l'évaluation des risques sanitaires, il y a des polluants qui peuvent ressortir avec des risques, donc il peut être exigé de suivre ces polluants-là dans l'environnement. Et à ça, on peut rajouter des polluants qui, a priori, ne présentent pas de risque ou sont peu émis par l'industriel, mais qui présentent localement un enjeu. Donc ça, c'est au cas par cas, ça dépend de la configuration locale du site. Comment les mesurer ? Alors là, c'est une slide qui résume beaucoup de choses et un peu complexe. Donc, tout ce qui est concentration dans l'air, on a différentes méthodes de prélèvement et d'analyse. En première approche, on y va pas à pas. On demande pas à l'industriel de mettre de la grosse métrologie complexe et coûteuse en première intention. Parce qu'on ne peut pas forcément multiplier les points de prélèvement, parce que c'est cher, parce que ça génère beaucoup d'analyses. Donc on y va, on préconise plutôt de faire des mesures plus simples, plus faciles à déployer sur le terrain. Donc on distingue les mesures intégrées des mesures en continu. Les mesures intégrées, c'est une mesure qui, on a deux phases. On a une phase de prélèvement sur une durée de 24 heures, une semaine, un mois selon. Et ensuite, on a une phase d'analyse. Donc on n'a pas les mesures directement au fur et à mesure qu'on prélève. Alors que les mesures en continu, qui sont des mesures beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, c'est des mesures où vous voyez directement les résultats, avec un pas de temps de 15 secondes, une minute, un quart d'heure, enfin selon le pas de temps qu'on demande. Donc il y a un certain nombre de métrologies qui existent et qui sont dépendantes des polluants qu'on recherche. On a, pour continuer à faire un petit peu de publicité, on a un guide complémentaire, un document complémentaire qui reprend un certain nombre de substances qu'on cherche classiquement dans l'environnement émis par les sites industriels, où vous voyez les méthodes qui sont vraiment adaptées aux polluants donnés. Donc pareil, qui est téléchargeable sur le site de l'INERIS. Pour les mesures, les concentrations de dépôts atmosphériques. Donc les dépôts atmosphériques, c'est ce qui retombe au sol. On a la base, c'est la jauge. La jauge, c'est ce qui est en photo ici, là. Vous voyez, c'est un espèce de petit bocal qu'on met dans l'environnement. Et les dépôts sont centralisés dans ce bocal pendant un mois. Et au bout d'un mois, on analyse les poussières et ce qui est retombé dans ce bocal. On peut aussi mettre en place de la biosurveillance. Donc la biosurveillance passive ou active. Passive, c'est ce qu'on récolte in situ directement dans l'environnement. Et active, c'est en fait les techniciens qui viennent avec des jardinières qui sont toutes énormalisées. Je vous fais un peu très schématique, hein, ce n'est pas les bons termes, mais pour que vous compreniez, en fait, c'est des petites jardinières où le sol est normalisé, les graines, tout a été normalisé, qui donc est exempt de pollution, et on les dépose dans l'environnement et on les laisse pousser. Et au bout d'un mois, on récolte et on analyse. Donc là, c'est ce qu'on appelle la biosurveillance active. J'attire votre attention sur la biosurveillance. Il faut savoir que c'est une méthode qualitative qui est propre au site, propre à l'endroit où on fait ces mesures. Mais c'est un bon outil pour voir dans le temps comment ça évolue et comment évoluent les concentrations dans cette matière biologique. Et vous pouvez comparer les points les uns par rapport aux autres, parce qu'on utilise toujours des points témoins, des points qui sont plus impactés, on y viendra juste après. Sur où les mesurer ? Où les mesurer ? Donc on a différents outils qui existent. Déjà, la première chose, c'est de savoir si c'est des émissions canalisées ou des émissions diffuses, parce qu'une émission canalisée, donc c'est avec une hauteur de cheminée assez conséquente, et donc du coup, le rejet va parcourir une certaine distance avant de retomber et d'être à hauteur de la population générale. Donc les prélèvements, si c'est des émissions canalisées, seront un peu plus éloignés du site, contrairement aux émissions diffuses qui sont déjà à hauteur d'homme, et du coup les pollutions max sont au plus près du site. Donc ça, c'est déjà un élément important de savoir dire si on est plutôt sur des émissions canalisées ou diffuses. Ensuite, on a plein d'outils qui existent, dont on se sert pour définir les points des points de prélèvement ou prélever de manière le plus représentative des émissions. Donc c'est les roses des vents. Les roses des vents, donc on étudie les conditions météorologiques qui se trouvent localement au niveau du site et on regarde vers où en fait le vent envoie ce qui est émis par l'industriel. Donc là c'est un exemple de roses des vents qui peut être définie. Donc on a la direction et la force, parce que plus le vent souffle fort, plus ça va loin. Et donc juste la rose des vents vous donne l'origine du vent, c'est-à-dire que là, c'est des vents qui sont de nord, et du coup, l'impact va être plutôt au sud. Et à l'inverse, ces vents qui sont de sud-ouest vont envoyer vers le nord-est, juste pour une parenthèse. Ensuite, vous avez les modélisations. Aujourd'hui, il y a plein d'outils de modélisation qui existent et qui sont facilement accessibles, et les industriels s'appuient beaucoup sur ces modélisations. Et on peut voir, ces modélisations permettent de définir des zones d'impact max et les zones témoins. Ce qui est important, c'est de regarder l'industriel dans son environnement local et donc de localiser les cibles. Les cibles, c'est les habitations, c'est les hôpitaux, les écoles, les crèches, les populations sensibles, les maisons de retraite, etc. Mais aussi tout ce qui est pâture, quand il y a des agriculteurs, savoir où il y a de la pâture, où il y a des cultures. Voilà, on définit tout ça sur une carte pour un petit peu bien positionner nos points de prélèvement. Et c'est intéressant d'avoir aussi sur la zone s'il y a d'autres émetteurs. Parce que s'il y a aider à l'interprétation, parce que peut-être que deux émetteurs vont envoyer au même endroit et donc ça va permettre de pondérer les résultats. Il ne faut jamais oublier, quand on fait les choix de points de prélèvement, de prendre un point témoin, parce que quand on va avoir nos résultats, on va comparer nos résultats des zones les plus impactées par rapport à un point témoin qui n'est pas impacté par l'industriel. Quand on fait une campagne, quand on fait ses choix de points de prélèvement, on s'appuie sur ces outils-là. Mais il faut avoir en tête, et là j'ai fait un petit aparté, c'est que quand on fait la campagne à proprement parler, il faut toujours mettre une station météo sur site pendant la campagne de prélèvement. Parce que pendant la période de prélèvement, il peut y avoir des conditions météorologiques spécifiques, un peu atypiques, et qui vont nous aider à interpréter les résultats. Parce qu'on est peut-être habitué à avoir tout le temps des vents de nord et il peut se trouver à un moment qu'on sait très bien que le vent ne le maîtrise pas et il peut y avoir des conditions particulières. Et à ce moment-là, des points qui sont attendus à être impactés nous pourraient l'être moins parce que les conditions étaient un peu différentes. Donc il faut tout le temps avoir une station météo installée sur site pendant la campagne. Ensuite, quand mesurer ? Donc, quand mesurer, dans l'idéal, hein, c'est ce que font les ASCA, mais pour l'air ambiant, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tout le temps, avoir des mesures en temps réel. Sauf que pour un industriel, c'est très coûteux et ça n'a pas forcément, il n'y a pas forcément l'enjeu de faire ce type de mesure. Donc il faut avoir une démarche raisonnée, raisonnable. Et nous, on n'est pas là à vouloir faire de la mesure pour faire de la mesure. On fait de la mesure pour voir s'il y a un impact sur la population générale. Donc on veut avoir une concentration représentative de ce qui se passe sur l'année. Et donc sur l'année, on préconise pour des méthodes simples, donc les méthodes qu'on peut déployer facilement, qui ont, pour les analyses qui sont moins coûteuses, on recommande de faire 8 semaines de prélèvement, c'est-à-dire 14% de l'année. Donc soit on fait 8 semaines d'un coup, mais on préconise plutôt de répartir sur l'année, donc soit 2 fois 4 semaines, soit 4 fois 2 semaines, et de répartir de manière homogène sur toute l'année, pour avoir les différentes saisons par exemple. Pour les méthodes plus complexes, donc quand on en arrive à une étape où on met en place des analyseurs en continu par exemple, on va prendre le mois le plus émetteur, celui où l'industriel va émettre le plus, et on va prendre 10 jours de ce mois-là. Voilà pour les recommandations qui sont en termes de durée de prélèvement. Après, au niveau réglementaire, il y a des exemples. Les incinérateurs, et ce qui est demandé réglementairement, c'est de faire une campagne par an, minimum. Pour les carrières, c'est demandé de le faire 4 fois par an, voire 2 fois s'ils montrent qu'ils ne dépassent pas les valeurs réglementaires. On peut faire les critères de choix, ils peuvent être divers et variés, notamment ça peut être l'activité du site, ça peut être la configuration été-hiver, ça peut être lors d'un arrêt technique pour faire un bruit de fond. Il peut y avoir plein de raisons, plein de choix, plein de critères qui peuvent définir les choix des périodes. Quelle que soit la période, elle peut être tout à fait correcte, il faut juste l'argumenter, la justifier et l'indiquer dans votre plan de surveillance. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, en outil complémentaire, il y a le fameux donc, document complémentaire où vous voyez un petit peu pour différents polluants chimiques les méthodes qui sont adaptées pour ces polluants, mais vous voyez aussi les valeurs réglementaires, les valeurs de gestion qui sont disponibles pour ces polluants-là. Donc il y en a un certain nombre, il y a quelques métaux, il y a des composés organiques volatiles, voilà, il y en a un certain nombre de polluants que vous pouvez retrouver. Il y a des valeurs de fond qui sont données aussi pour que vous puissiez faire des comparaisons selon la typologie d'environnement. Donc il y a des valeurs de type urbaine, type rural. Vous pouvez faire des comparaisons pour interpréter vos campagnes de mesure. Vous avez à la fin de ce guide-là donc des études de cas, donc des cas un peu classiques qu'on retrouve. Par exemple, l'étude de cas numéro 1, c'est les émissions canalisées de composés organiques volatiles. Donc, voilà, les COV, les BTEX qu'on peut mesurer dans l'environnement, comment on fait. Et donc, il y a toute la démarche détaillée, c'est-à-dire le choix des points, des périodes, etc. On vous fait des petites études de cas. Donc, il y en a 4, donc de la plus simple à la plus complexe. Et ensuite, il y a aussi un guide, je vous l'ai dit tout à l'heure, le guide de IEM. Alors, ce n'est pas ARS, c'est ERS, excusez-moi, c'est une faute de frappe. C'est tout ce qui est évaluation de l'état des milieux et évaluation des risques sanitaires. Donc en fait, nos résultats de mesure de concentration dans l'air et dans les dépôts peuvent être intégrés ces évaluations. Et pareil, là, il y a un guide qui est disponible sur le site de l'INERIS que vous pouvez télécharger. Voilà, donc j'ai été très très vite parce que j'avais qu'un quart d'heure et ça se trouve, j'ai dépassé.
Non, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre clarté. J'imagine que tout le monde a apprécié aussi. À la limite, je vous propose, normalement, il y a les questions de la salle à la fin de la session, mais éventuellement, si vous avez déjà des questions sur les deux présentations que nous ont faites nos deux personnes de l'INERIS, est-ce que vous avez quelqu'un? Ou ça viendra plus tard en fonction de ce qu'on va voir avec Monsieur Milfsud. Bon, écoutez, je me tourne vers vous, du coup. Donc, merci encore pour cet aperçu vraiment complet. Oui, voilà. Techniquement, pas refaire le même... Donc, comme vous nous disiez tout à l'heure, vous allez nous présenter, en fait... Avant tout, vous allez nous parler de la technologie des microcapteurs. Là, on passe de la côté méthodo jusqu'à côté plutôt outil mettre en place, outil concret. Donc, la technologie donc, des microcapteurs. Et je pense que ça vous amènera à nous expliquer une nouvelle solution que vous avez donc chez vous, qui est
le WT1. Donc, voilà, c'est ça, qui fait partie de vos solutions connectées, donc qui associent microcapteurs, algorithmes propriétaires et intelligence artificielle, comme on disait tout à l'heure.
Absolument.
Donc, je vous laisse la parole.
Merci, merci. Merci en tout cas pour cette très belle introduction, parce que les outils que je vais présenter sont des outils de génération complémentaires à ce qui existe pour le suivi des émissions. Et comme je le disais, je crois qu'il est extrêmement important d'avoir, comme vous le disiez, après ces études d'impact, ces études initiales, de pouvoir agir en temps réel. Mon obsession, réellement, au niveau de la société, ce n'est pas la mesure. Parce que mesure sans action n'est que ruine de l'âme. En fait, il faut mesurer pour agir. Donc, le travail que nous essayons de faire, c'est la liaison entre la mesure et l'action de remédiation. Et pour cela, il faut être là en temps réel, en permanence, et il faut être là pour être capable d'avoir des émissions extrêmement fugitives. Une fuite de gaz, une émission d'odeur, un déploiement de particules, une benne à boue qui n'est pas fermée en temps réel. Donc, d'agir en temps réel avec la résolution spatiale et temporelle. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est clairement d'essayer d'être complémentaire avec des outils extrêmement sophistiqués, extrêmement performants en termes de limites de détection, de linéarité, etc. Et donc, ce que l'on propose n'est pas du tout des systèmes qui soient à ce niveau-là, c'est des systèmes qui vont être plutôt dans une cartographie, dans une mesure du point d'inflexion autour des émissions environnementales. Qu'elles soient principalement atmosphériques, bien sûr, les gaz, les particules, mais pas seulement. Parce qu'on pense que, fondamentalement, il faut aussi pouvoir contextualiser l'événement par le savoir-faire de l'homme de l'art, du professionnel qui est sur place. Et donc, on va rajouter, comme vous allez le voir, autour notamment du WT1, qui est ces systèmes pour les environnements extérieurs et principalement les sites industriels, les sites pétrochimiques, les papeteries, le traitement de déchets, les sites de construction ou les sites aéroportuaires et portuaires, qui sont les trois grands axes sur lesquels on s'exprime, ou des environnements intérieurs. Ce qui est important, c'est aussi de ramener l'expertise de chacun d'entre vous, des hommes et des femmes qui sont au centre de ces process. Et les hommes et les femmes que nous sommes, on va contextualiser notre process par des données analytiques, des données de gaz, des données liquides, des données de particules, des données de nombre d'unités, de température. Mais on va aussi les contextualiser avec notre expérience, c'est-à-dire notre savoir-faire dans la compréhension du process. Et pour ça, on va utiliser aussi les odeurs. On va utiliser les sons et non plus le bruit. On va utiliser les allergènes et les poussières. Et c'est ce que l'on va essayer de faire. Troisième élément, et je vais y revenir. Troisième élément, c'est la capacité, comme vous le disiez très bien, de pouvoir aussi avoir le compte-rendu du voisinage. Et donc, nous avons développé des systèmes qui permettent en RGPD de s'exprimer par des QR codes qui sont dispersés sur les abribus, sur le mobilier urbain, dans le mobilier industriel, où tout un chacun peut s'exprimer sur le type d'odeur, sur le type de bruit, de son et qu'il a perçu. Et je vais vous montrer quelques exemples, notamment sur une papeterie au Canada. Tout ça remonte en temps réel dans la plateforme, ce qui va permettre d'agir en connaissance de cause. Encore une fois, on va donc analyser toute une série de gaz, de bruit, de particules, mais aussi, bien sûr, des odeurs, des sons, pour pouvoir les identifier, parce que j'aime bien cet exemple. Si vous avez 100 décibels sur votre écran radar, sur votre suite d'enfouissement de gaz, par exemple, avec des compresseurs, eh bien, si vous avez 100 décibels sans savoir si effectivement c'est le compresseur qui claque, si c'est la Harley Davidson qui passe à côté de votre usine, si c'est un accident de voiture ou éventuellement un coup de feu, la remédiation ne va pas être du tout la même. Et donc, il va falloir pouvoir identifier géographiquement et identifier en nature. Et donc, on développe ces objets connectés qui vont permettre, soit en environnement extérieur, soit en environnement intérieur, de collecter toutes ces données. Et donc aujourd'hui, on a jusqu'à une vingtaine de capteurs gaz. Vous avez bien sûr des odeurs aussi, donc notamment des intensités d'odeurs, mais aussi des qualités d'odeurs, ce qui va vous permettre de dire c'est le laveur acido-basique, c'est le clarificateur, c'est le biofiltre, c'est la benne à boue ou c'est le Kentucky Fried Chicken qui est de l'autre côté de la rue. Vous avez la capacité aussi de mesurer toute une série de capteurs, notamment à effet de serre, notamment le méthane, mais aussi l'oxyde nitreux, qui est tout nouveau. Donc, on a un capteur optique pour l'oxyde nitreux. Et enfin, un certain nombre de capteurs autour des alcanes, des capteurs de sol et des capteurs liquides. Tout ça est contextualisé dans une boîte qui va permettre d'analyser tout ça en temps réel.
Et alors, comment tout ça se met en place? Comment
alors,
il fait l'industrie?
On va les mettre autour des sources surfaciques, comme vous le disiez, et aussi des sources canalisées. Donc, on va analyser des sources volumiques, des cheminées, des tas de compost, des sorties d'usines, que ce soit à la source ou à la périphérie, voire au voisinage. Notre préférence est d'être le plus proche possible de la source de façon à pouvoir réagir en temps réel. Et donc, toutes ces données remontent. Puisqu'elles sont aspirées, vous voyez, le système est dynamique, il aspire, ça passe par des chambres de capteurs, et à partir de là, il y a donc une mesure qui est effectuée. Là, c'est des sources surfaciques, mais ça peut être aussi en sources canalisées. Et tout ça remonte dans la plateforme, ce qui vous permet de suivre votre site avec une granulométrie qui dépend, comme vous le disiez très bien, de la topographie du terrain, des gaz, enfin des vents et des présences des vents dominants. Et donc, on va cartographier ces terrains, créer une série d'alarmes autour de données que j'appelle monovariées, hein, des données de gaz, de l'azote, de l'H2S, du NO2, du BF4 ou autre. Et puis, bien sûr, des données multivariées, des sons, des odeurs et des particules et des allergènes, notamment la silice alvéolaire, puisqu'on travaille beaucoup sur les poussières carcinogènes. Donc, vous voyez, après la plateforme, c'est assez classique. Vous remontez des cartes de chaleur, des données automatiques qui vous permettent de savoir quels sont le type de problèmes que vous avez eu, quelle est la régularité, à quel moment vous avez dépassé les limites, à quel moment vous avez, combien de temps elles ont été en place, ces alarmes, à quelle vitesse vous avez remédié à la situation. Et enfin, ces données vont vous permettre d'avoir des cartographies avec des systèmes postés. Donc ça, c'est notre installation à Shanghai, où nous avons 250 systèmes qui permettent de cartographier la ville avec des systèmes postés, mais aussi des systèmes transportés, puisque vous allez pouvoir les mettre sur des systèmes mobiles. Alors bien sûr, la fiabilité de la mesure est dégradée, hein, mais ça vous permet de contextualiser en temps réel ce qui se passe. Et vous voyez par exemple des points chauds ici, que l'on pourrait dire liés au trafic. En fait, elle est liée à la cimenterie qui est juste à côté. Parce que la reconnaissance de particules ne vous sert pas simplement un PM1, PM2.5, PM10, mais va vous sortir une empreinte particulière qui va vous permettre de dire c'est ce type d'empreinte qui revient, c'est ce type d'empreinte qui vient d'une cimenterie et non pas d'une coquerie ou d'une sablière. Et à partir de là, comme vous le disiez très bien, on va injecter ces données dans des systèmes de diffusion qui vont permettre, en fonction de la topographie, là aussi, et des vents dominants, de pouvoir faire des mesures au point d'impact en temps réel, et donc de quantifier, notamment avec les données de l'Adréal, qui disent qu'il ne faut pas dépasser plus de 2% du temps, 5 unités d'odeur au point d'impact, ou tant de décibels au point d'impact, etc. Donc le système va vous faire ce type de calcul, avec non pas malheureusement la fiabilité hein, qui existe dans les sonomètres de classe 1, avec les chromatographes gazeux en ligne, etc., mais en vous permettant d'avoir une mesure contextualisée sur les 365 jours de l'année. Avec, là, vous voyez tous les points rouges, c'est les points d'impact, donc vous les définissez, comme vous le disiez, les personnes sensibles, les hôpitaux, la mairie, l'université qui peut être à côté, donc vous allez faire ces calculs, que ce soit sur les différents gaz, ça c'est le port de Ningbo, que nous avons cartographié, où vous avez un site industriel particulièrement important. Et bien sûr, l'agence environnementale locale souhaitait avoir des mesures au point d'impact. Et donc, ça permet de quantifier au point d'impact ces différents paramètres. Je vais peut-être prendre un exemple rapidement. Vous voyez une zone en Chine aussi, qui est à côté de Nankin, qui est aussi au bord de la rivière. Vous voyez qu'il y a une concentration extrêmement forte. Vous avez une usine de fabrication d'énergie à partir de charbon, une usine de plâtre, traitement des eaux usées, du peinture, du polyuréthane, du plastique. Donc on se retrouve dans un contexte industriel particulièrement complexe. Et donc l'important, c'est de se dire, j'ai bien du bon CO, du NO2, de l'ozone, du SO2, du particule. Oui, bien sûr, on mesure ça avec la fiabilité dont je parle, avec le bémol que je mentionne. Mais
Comment remédier? Qui est responsable? D'où vient la source? Où se trouvent les missions? Et donc, tout le souci que nous avons, notamment pour protéger les industriels qui se trouvent dans des environnements complexes, c'est de se dire, mesurons ces paramètres, mais reconnaissant la forme de ces paramètres pour pouvoir remonter et non plus dire, ah tiens, ce jour-là, il y avait beaucoup de particules, mais est-ce que c'était l'usine de plâtre ou est-ce que c'était l'usine de fabrication d'énergie à base de charbon? Et donc, on va utiliser des données chimiques, des données particulières, des données de triangulation pour pouvoir remonter à la source et aider la source en temps réel en lui disant, mais utilisez du plasma, utilisez un lit à charbon actif, utilisez plutôt là. Faites attention à une rampe de brumisation en temps réel, d'essayer de déclencher ces éléments, de suivre leur efficacité en temps réel. Voilà ce qu'on essaye de faire, de s'impliquer plutôt dans le processus qu'uniquement dans la donnée. Voilà un peu notre approche. Je ne sais pas si j'ai 2 minutes encore.
Oui, je vous en prie. Je crois que vous avez aussi des exemples en France.
J'ai des exemples en France. Alors, j'ai peut-être un exemple en France, mais je vais prendre un exemple toulousain, tiens. Voilà, puisque nous sommes de Toulouse. Voilà, donc l'usine de Toulouse qui est les eaux usées avec la rocade et puis l'aéroport de Blagnac qui se trouve au nord. Et nous avons ici, sur le côté droit, des habitants. Eh bien, malheureusement, ces habitants, parce que le vent dominant pousse régulièrement toutes les odeurs vers les habitants, se plaignent. Et donc, les monsieur Martin et les madame Michu qui sont là sont particulièrement agacés, bien sûr, par les odeurs particulièrement. Et donc, accusent l'opérateur qui se trouve de l'autre côté de la rocade. Bien sûr, l'opérateur a des sources émissives. Il a un clarificateur, il a là des granulés, il a des bennes à boue, des filtres. Mais ce n'est pas toujours lui. Parce qu'en amont du vent, il y a la compostière de la ville qui traite les déchets verts. Et donc, quand il y a un problème d'émission, c'est que ces déchets verts et ces odeurs, qui sont plutôt des odeurs terpéniques d'ailleurs, qui sont d'une tonalité qui peut être reconnue par le professionnel, mais pas par Madame Michu et Monsieur Martin, et donc ça traverse l'opérateur des eaux usées, et bien sûr, on se retourne vers l'opérateur des eaux usées. Et donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a créé un réseau de systèmes de mesure qui permettent, un, à l'opérateur de revenir vers ses propres émissions, et de dire, est-ce que c'est mon biofiltre, je dois rajouter de l'humidité, est-ce que c'est mon laveur acido-basique et j'ai une problématique sur ma chimie, est-ce que c'est ma benne à boue parce que j'ai laissé ma porte ouverte, ou est-ce que c'est l'usine de compostage. Et donc on va mesurer les émissions d'H2S, de mercaptan, de méthane aussi, notamment autour du clarificateur et du biométhane, mais on va aussi mesurer les odeurs, et vous voyez que là, dès qu'on dépasse l'odeur, en unité d'odeur, validé par l'ADREAL, puisque dans ce cadre, on a utilisé, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'olfactométrie dynamique, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, je vais peut-être remonter, c'est une norme qui est la norme EN13725, où un panel sensoriel va donc sentir des sacs et va donc corréler par rapport à du N-butanol, va se calibrer et va donc déclarer une concentration qui est basée par le nombre de dilutions successives. Et donc, c'est une norme. On va sortir 5 unités d'odeur, 15 unités d'odeur, 50 unités d'odeur. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va corréler sur cet aspect-là le système de façon à avoir une corrélation. Et ce qui va permettre d'avoir une intensité d'odeur, je vais y revenir, mais aussi quand on a un dépassement, l'identité de cette odeur. Et on fait la même chose sur les sons et on fait la même chose sur les particules et les allergènes. Donc, quand on revient à ce type-là, quand vous revenez, vous dépassez les 5 unités d'odeur que l'ADREAL demande à ce site de ne pas dépasser les 5 unités d'odeur. Quand ça dépasse, eh bien, on indique par un traitement de données. Je vous présente un peu ce qu'on appelle une carte olfactive dans ce cadre-là. Chacun des points représentant des points de mesure de l'apprentissage. Et vous voyez qu'on a le laveur acido-basique, le clarificateur, les granulés, la benne à boue et l'usine de compostage des déchets verts. Ce qui fait qu'en temps réel, vous avez une intensité et une qualité, et donc vous pouvez remonter à la source. Et on applique ça, si vous voulez, à toute une série d'émissions, toute une série de sources d'émissions, de façon à aider d'un côté l'opérateur et de l'autre, de le déresponsabiliser quand la source n'a pas lui comme origine.
Donc concrètement, ce sont des solutions que vous adaptez sur mesure à chacun de vos clients?
Alors, les solutions sont toujours les mêmes. Sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que le système arrive pré-calibré sur les gaz, sur les particules, sur les sons. Par contre, effectivement, quand il s'agit d'odeurs, Il va falloir, pour certains types d'odeurs, nous arrivons avec des systèmes qui sont déjà préappris, notamment en environnement intérieur, hein, pour contextualiser une cafétéria, sur des odeurs de poisson, des odeurs de rance, des odeurs de friture, dans les toilettes, des odeurs d'insalubrité, vomi, fesses, urine, détergent. Donc là, on apprend au système avant qu'il soit livré, donc on a des banques de données d'odeurs ou des banques de données de sons. Par contre, dans les environnements extérieurs, on fait un apprentissage sur site. Voilà. Apprentissage qui peut être sur cette papeterie, par exemple au Canada, qui a été basé sur les collaborateurs et les citoyens. Donc vous voyez, on a cartographié tout le tour de l'usine, sachant qu'il y avait une usine autour de agroalimentaire qui faisait de l'alimentation animale, donc avec beaucoup de méthionine, des données soufrées. Et ici, la papeterie. Et malheureusement, c'était la papeterie qui était régulièrement mise en cause. Et donc, tous les chiffres que vous voyez là, il y a un QR code différent qui permet donc de faire une remontée d'odeur, une remontée de perçu, de façon à pouvoir calibrer les systèmes. Vous voyez, ils sont ici en sortie d'usine. Donc, c'est un système à plasma ici. Ils sont sur le toit de l'usine. Et donc, on va être capable de suivre en temps réel les données d'H2S, par exemple, ici en jaune. Et vous voyez les données d'odeur. Et vous voyez que les odeurs ne sont pas liées obligatoirement à H2S. Ce que l'on pourrait naturellement croire sur un traitement d'eau usée, sur une papeterie, on remonte en se disant ben, on va mettre de l'H2S, et ben, ce n'est pas toujours suffisant pour pouvoir contextualiser une odeur. Et d'ailleurs, on le voit bien là. Et à partir de là, vous voyez, c'est renseigné. Donc on a les éléments, ce qui s'est passé sur cette rue, à ce croisement de rue, le 4 mars dernier, à 20h40, il y avait une odeur de papier qui était agréable de niveau 0 ou de niveau 1, etc. Et le système donc enrichit et va créer des clusters. Et donc là, on a l'odeur du pet food, de l'animal, on a l'odeur du papier mouillé, l'odeur du d'œuf pourri, donc d'H2S souvent, de mercaptan. Et à partir de là, on va gérer en temps réel les intensités d'odeur. Et toutes les 10 secondes, il est projeté dans la banque de données, qu'elle soit particulière, sonore ou dans ce cadre-là, odorante ou gazeuse. Et le système vous reconnaît le type d'odeur. Donc là, vous voyez, de 8h47 à 9h17, vous avez principalement une odeur verte qui est l'odeur piquante qui vient de l'usine agroalimentaire. Et à partir de 9h17, vous passez sur une odeur plutôt de papier mouillé. Donc, ce qui vous permet de gérer votre site en temps réel et de déclencher le plasma que quand il vous le faut. Donc, ça fait une empreinte énergétique plus faible, que ce soit sur les rampes de brumisation, que ce soit sur votre process. Ça vous permet de déclencher les éléments quand vous en avez besoin. Voilà. Voilà un peu ce que l'on essaye de faire.
C'était donc Yannick Pêcheur, hein. Je suis installateur. Et donc, les questions étaient essentiellement sur les classes d'instrumentation, les classes de précision. Alors, que vous avez.
Il est clair qu'aujourd'hui, les objets connectés à l'émission ou à la source ou à la périphérie ne sont pas certifiés. Il y a deux normes qui sont en cours, une qui est sur le point de sortir, qui est issue du WG42 et qui classe les microcapteurs en trois grandes classes de performance en termes de linéarité, en termes de limite de détection, etc. Et il y a une autre norme qui arrive, qui est la WG41, qui est un peu plus éloignée, qui vraisemblablement ne verra le jour qu'en 2024, sur les performances de ces mêmes objets connectés sur la détection d'odeur. Donc, voilà. Donc la première devrait sortir dans les semaines qui arrivent.
Vous pouvez répéter.
C'est la WG, donc c'est Working Group. En fait, c'est l'émission du Working Group. Il n'y a pas encore de numéro dessus, mais sur le 42, WG42. Et sur les odeurs, c'est la WG41. Voilà. Et c'est spécifiquement sur les gaz, rien encore sur les particules en environnement extérieur. Même si nos systèmes viennent d'être validés par l'ITGA sur les systèmes de construction, puisque vous savez que depuis janvier 2021, la silice alvéolaire est déclarée comme cancérigène. Et donc aujourd'hui, on fait des audits effectivement de prélèvements sur les chantiers et d'analyses en laboratoire. Aujourd'hui, nous avons validé un système d'analyse en temps réel des poussières carcinogéniques sur le compagnon, donc auprès des voies respiratoires. C'est porté par le compagnon pendant ses heures de travail et ça permet en temps réel de le localiser. On a aussi un microphone qui permet, grâce à notre connaissance de son, de reconnaître s'il y a des gémissements, cris d'appel à l'aide, s'il tombe. Et enfin, bien sûr, la mesure quantitative, mais surtout qualitative de la silice alvéolaire, c'est-à-dire dans un nuage complexe de poussière, d'aller extraire celle qui peut être carcinogénique. Voilà, donc ça, ça a été validé par l'ITGA et le système est disponible à la vente aujourd'hui. Mais remonte toujours dans la même plateforme. C'est-à-dire que sur la même plateforme, vous avez les systèmes postés qui vous permettent de voir les gaz, etc. et les systèmes portés par les compagnons. Mais encore une fois, vous avez raison, pas de normes aujourd'hui. Ce sont plutôt des résultats corrélés avec effectivement des systèmes certifiés, que ce soit des stations de mesure de Air Paris ou des différentes Atmos, etc. Donc on fait de là ce qu'on appelle la colocalisation et on compare les performances, qui sont bien sûr pas aussi bonnes que les performances des instruments qui sont certifiés, bien sûr. Oui, une autre question.
Bonjour, donc Jacques Fer de la société Suez.
Oui.
Et alors, ce que je voulais savoir sur la... Parce que j'ai cru comprendre que c'était la STEP de Toulouse-Ginestou.
Oui.
Quand est-ce que vous avez fait les mesures, sur quelle période?
2018-2019, c'était encore Veolia.
Voilà, je me doutais un petit peu. Mais justement, ça nous intéresse pour la suite. Et alors, je voulais savoir si vous avez des systèmes de monitoring au niveau des désodos.
Alors absolument, d'ailleurs je crois avoir un résultat, voilà, je ne sais pas si on voit sur l'écran. Donc plusieurs choses, effectivement, déclenchement des rampes de brumisation, qui n'est pas tout à fait de la désodorisation mais du masquage, donc avec des sociétés partenaires comme Westrand par exemple, qui va déclencher, non pas, ce qui est intéressant encore une fois, et pour revenir à ce que vous disiez de façon très juste, c'est non pas à la source, mais au point d'impact. C'est-à-dire que ça va permettre de faire des économies d'eau et d'additifs. Ce n'est plus l'opérateur qui est sur place en disant « Waouh, ça sent aujourd'hui, je déclenche ma rampe de brumisation ». Non, il a une donnée sur son téléphone portable en disant « Chez Madame Michu ou Monsieur Martin, voilà la concentration ». Et donc effectivement, parce que j'ai les données météo, parce que j'ai les concentrations, parce que j'ai des données d'humidité aussi, parce qu'il faut savoir que ces produits émis peuvent être très réactifs avec l'humidité ou pas. Donc vont voler plus ou moins loin en fonction de l'humidité de l'air. Et donc, ça va permettre de déclencher. Effectivement, sur des désodos type biofiltre ou laveur acido-basique, on va être en aval, bien sûr, pour mesurer l'efficacité, mais on peut être aussi en amont et en aval pour voir ce qui rentre, notamment dans les biométhanes, etc. On est très, très présent pour ce type de fonctionnement. C'est l'application numéro un.
Et alors, juste une question, parce qu'au niveau des laveurs, vous avez donc un air qui est humide en sortie. Et vous arrivez bien à gérer au niveau des microcapteurs?
Alors c'est une problématique pour tout type de mesure. La très grande humidité condensante, il faut voir le condensant, effectivement à partir de 95-98%, les microcapteurs ne sont plus opérables. Donc pour ça, on va prendre un sécheur, que je n'aime pas particulièrement parce qu'il va y avoir du stripping, notamment sur les amines. On essaye de l'éviter, mais effectivement, parfois, quand vous êtes dans une source canalisée, avec une très forte concentration, soit de COV, soit d'humidité, il faut soit sécher, soit diluer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des utilisateurs dans la salle de ces systèmes de séchage auxquels vous pouvez... je crois que la SIAP est présente et vous pouvez leur demander comment ça fonctionne. Mais les microcapteurs ne sont pas la panacée. C'est tout à fait complémentaire avec d'autres éléments. Moi, j'aime ce que j'appelle la GPSisation de la mesure. C'est-à-dire que vous avez un satellite, ça vous donne la France. Vous avez un deuxième satellite, vous avez Paris. Un troisième satellite, c'est Notre-Dame. Chacun d'entre eux sont flous dans la mesure. La précision vient de la superposition. Et donc, comme vous le disiez très bien, d'avoir le voisinage, d'avoir des systèmes de mesure qualifiés, d'avoir des microcapteurs, cette combinaison des choses va vous apporter une granulométrie qui va permettre d'agir en temps réel. Voilà.
J'avais juste une question un peu plus technique. On a une problématique odeur. Donc c'était plus une question pour l'INERIS. L'exploitant nous demande si on saurait doser les chloramines dans l'air en sortie de désodorisation. Alors, j'ai déjà échangé avec quelqu'un chez vous, mais je suis du CIAP.
Nous, dans l'air, on a suivi les chlorures. On a déjà fait ça dans l'air, mais les chloramines...
Mais effectivement, on était dans la boucle de ces échanges avec du coup, l'autre responsable d'unité qui est plus dans les rejets canalisés et du coup qui fait des odeurs industrielles. Donc, et effectivement, les chloramines, ce n'est pas hyper simple. Il faut arriver à combiner ce qu'on avait proposé d'ailleurs, hein, il me semble... faire les chlorés, amines, et bon, mais on ne peut pas faire dans l'air comme ça, chloramines facilement, surtout à l'émission. C'est la problématique de... Enfin, il y a plein de composés comme ça, tous ces travaux de recherche qu'on mène encore. Hein, on ne sait pas encore tout faire. On ne sait pas encore tout faire en continu, comme vous le disiez aussi, et à des patents réels. Donc du coup, il faut combiner, comme disait Virginie. On a une problématique sur telle substance, on voit ce qui est faisable et on compose avec des choses un peu plus lourdes, des choses un peu plus simples, mais parfois on n'arrive pas à tout faire encore. Mais ce qui est très bien pour nous, hein, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Comment ?
Problématique ammoniaque.
La
problématique du dosage de l'ammoniaque dans l'air en sortie d'installation. Et dans l'air ambiant, c'est une vraie problématique pour le CIRP.
Bah oui, je sais.
C'est du cas par cas et on n'a pas une réponse unique qui fonctionne pour tout le monde. Et on étudie le site et on regarde ce qu'on peut faire et ce qui est adaptable pour le site en question. Mais l'ammoniaque, on peut faire des choses.
Mais... Surtout que ce sont des molécules très réactives.
Oui, mais avec l'eau, c'est pas bon ménage.
Ça fait pas bon ménage. Et oui, ça corrode un peu.
Vous êtes Madame Cronier, c'est ça? Ah oui.
Écoutez, je, au nom de toute la salle, je remercie nos intervenantes et intervenants qui ont été vraiment d'une grande clarté. Merci beaucoup de votre aide. Et puis, restez à disposition si vous avez encore quelques minutes, si jamais vous voulez encore discuter ou dehors. Voilà.
Merci
à vous. Je vous souhaite bonne fin de journée, bonne journée en fait, sur le salon. Au revoir. Merci.